Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est pas ne pas haïr, c'est pas aimer à tel point que tu peux pas aimer quelqu'un d'autre.
Est-ce qu'on peut avoir des coachs qui puissent faire passer des câbles, faire progresser des joueurs de matière première?
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Oueda Cherchour, avec Samir Nasri, on a deux machines à jingle ici.
Il y a une vraie machine. Puis y a
franchement, j'aimerais bien qu'on fasse un petit medley d'ici la fin de l'émission pour que Samir écoute le top 3 à Walid.
Prépare-nous ça, s'il te plaît, Polo.
C'est top 3, c'est un top 10.
Non, mais il y a la 3 qui
top
sont
50,
dessus.
Top 50.
Ouais, franchement, c'est un top 5.
Ouais, il y a les Aristochats. Est-ce qu'on a les Aristochats ou pas là? On l'a ou pas, Polo? Tu peux le sortir tout de suite? On se marre deux secondes. Il va me le trouver, le jingle Walid, les Aristochats. Bon, Samir Nasri.
Là, ça va faire du podcast là quand même. Cette soirée génération.
Parce que t'es là, c'est ça? Tu veux dire ça?
Bah, bien
non,
sûr.
Qui reste jusqu'à 22h surtout.
Ouais. C'était pas prévu.
C'est sûr ça?
Alors, il va essayer quoi.
Samir, tu restes un peu avec nous. Ouais, on est bien là.
Problème. Ouais, là, je suis bien. La vérité.
T'es bien, la vérité. Bon, alors les gars. Allez, on écoute les Aristochats. Écoute, Samir,
c'est bien. Oui.
On écoute.
Comment c'était ce dessin animé où il y a des chiens là?
Les Aristochats.
Et bon, c'est un classique.
Excellent. C'est pas du troll en plus.
Non,
hein.
Pas du tout.
Mais c'est lequel que tu...
Parce qu'il y a un chien dans les Aristochats. Il mange des spaghettis.
Ah ouais.
Ouais. Donc j'ai pensé à ça.
C'est pas totalement faux.
Bon, on sait pas de quel dessin animé il parlait du coup.
Ben, je sais pas non plus.
C'est Rocky,
mais oui, c'est Rocky en plus. Mais oui,
c'est Rocky
en plus.
Rocky dit n'importe quoi.
C'est Rocky. Désolé.
On apprend aussi
un nouveau jingle, ça.
On aura Samir en jingle. C'est bien dans Génération After. D'ailleurs, tu racontes, c'est Mehdi, hein. On parlera Mehdi aussi dans un instant, qui raconte que dans la chambre que vous partagez à Marseille, tu te shootais au Parrain, à l'Impasse, à Scarface. Tu les regardes encore aujourd'hui?
Ouais, je suis cinéphile.
T'es cinéphile?
Ouais.
Cinéma américain, essentiellement?
Ouais. Non, je pourrais regarder cinéma étranger. Des fois, je suis tombé sur des films européens qui valaient le coup. Mais je suis cinéphile, série, je regarde.
Du coup, c'est bon maintenant la VO?
Oui,
mais ça y est, parce que Wally, tu peux pas regarder un
match. c'est pas possible.
Meilleure série all-time de Samir Nasri?
Les Sopranos.
The Wire, non?
The Wire en deuxième.
Breaking Bad.
Ouais, tu vois, The Wire.
C'est où? Pas mal, hein? Top 5, oui.
The Wire en deuxième.
T'es plus Tony Montana ou Michael Corleone?
Michael Corleone.
Bien sûr.
Tous les jours.
L'évolution, ça, on aime.
Oui.
Bon, il finit bizarre quand même, mais quand
non,
même.
Non, mais même le mec qui est tiraillé, qui veut pas faire partie de ce truc-là, et qui, par rapport à l'amour de sa famille, est obligé de faire des choix dans...
Puis le changement physique,
c'est
impressionnant. Bref, on a un extrait du Parrain, tiens, pour Samir.
Et c'est le rôle principal, il est fait pour moi, c'est moi tout craché. J'aurais pas besoin de jouer, j'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, Parrain, je sais pas quoi faire.
Conduis-toi comme un homme. Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Oui, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons?
Johnny Fontaine qui prend une claque.
Oui.
Magnifique moment. Voilà pour le Parrain. Alors l'équipe de France, on a commencé à en parler tout à l'heure avec Kevin et Walid. Je pense que ça reste pour beaucoup un regret. 41 sélections.
Un gâchis.
Il y a quelques frissons, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Et même, là on va le dire, hein, tu n'as pas toujours mis du tien. Certainement, on a parlé du bus, mais ça c'est un épisode qui a été assez vite balayé. Ça a pu atteindre ton image. Mais bon voilà, tu arrives en équipe de France, première sélection. 28 mars 2007, France-Autriche, Stade de France. Dernier match, Ukraine-France, 15 octobre 2013. Barrage pour le mondial, défaite 2-0, c'était pour aller au Brésil. Au milieu, il y a 5 buts, 1 euro 2008 pourri hein, pour tout le monde, hein, pas que pour toi, et pas mal d'incompréhension. Comment tu qualifies ta carrière en bleu, toi, ça? Il parle de gâchis, Walid. Est-ce que c'est fort ou pas pour toi?
Non. Je trouve qu'elle n'a pas été à la hauteur de mes prestations en club, mais je n'ai jamais réussi à réellement trouver ma place et à pouvoir m'exprimer de la manière dont je pouvais le faire en club. Le début était idyllique, parce que première sélection, je fais passe décisive, troisième sélection, je marque et compagnie, mais après, mis à part quelques prestations qui pour moi étaient bonnes avec Laurent Blanc, j'ai jamais eu vraiment un coach derrière qui m'a vraiment donné les clés pour que je puisse m'exprimer. Mais je pense que voilà, c'est moi aussi, j'ai pas fait les choses que je devais faire.
L'Euro 2008 sur Raymond Domenech, hein, c'est Qatar, on l'a dit, t'es pas convoqué.
Il rentre pour... contre l'Italie sur 6 minutes avec le carton rouge là. Ouais. Le carton rouge de Eric Abidal. Je suis remplacé par Jean-Anne Boumsong.
T'es pas convoqué pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Ça, c'est une de tes grandes réussites dans ta carrière, je pense. Franchement,
oui.
Mec,
oui.
Je me mets à ta place. D'ailleurs, t'en parles en
le dos. C'est sa meilleure compète.
Là, tu frises les moustaches. Tu fais allez-y, les gars, tranquille. Ah, oui. Moi, je suis bien chez moi en vacances.
Ah, oui. Ah, ouais.
C'est ça?
La vérité, quand ça s'est passé, j'ai eu. J'ai mal vécu. Arsène Wenger m'appelle à la minute où c'est annoncé la liste. Il me dit, tu vas voir 8 semaines de vacances. Recharge les batteries, tu reviens la saison prochaine, tu casses tout. Et j'ai fait 4 semaines de vacances. Après, je suis rentré, j'ai trouvé ça trop long, les 8 semaines. Je me suis préparé et je réalise une très très belle saison juste après. Et avec tout le tralala qui s'est passé durant la Coupe du Monde, ouais, j'étais en train de fêter ça, en train de me dire, pour tranquille, j'y suis pas, on ne pourra pas dire.
T'imagines si ouais, en plus il y avait été, mon Dieu. Ouais.
moi, le gros regret, ouais.
Pour la plupart des gens, il a été. Donc, ouais.
Donc, on dit ce soir, Samir Nasri n'était pas un Aïssna.
Il n'était pas un Aïssna.
Voilà.
Moi,
le gros regret.
Il a laissé la place à Thierry Henry.
Exactement.
Moi, le gros regret, vous savez ce que je pense de Samir et de sa carrière. Et je disais tout à l'heure, avec Gilbert, je me battais pour dire qu'en club, avec David Silva ou avec Fabregas, c'était exceptionnel et qu'en équipe de France, il n'arrivait pas à retrouver ce niveau-là. C'est l'Euro 2012, parce que l'Euro 2012, oui. Déjà avant l'Euro 2012, il y avait eu des matchs contre le Brésil, contre l'Angleterre à Wembley avec Gourcuff, où il jouait à 2 numéro 10 avec Laurent Blanc. Je trouvais que déjà il se rapprochait de son meilleur niveau. Et t'as un peu l'avènement de la génération 87 à l'Euro 2012. Et moi, j'ai 16 ans à cette époque-là. Je me dis, mais ils vont tout casser. Et t'as ce premier match. Bon, t'as l'égalisation contre l'Angleterre. Avec ce qui s'en suit.
Avec derrière, je le dis pour ceux qui ont oublié. Tu marques, célébration, ferme ta gueule, dirigé vers la tribune de presse.
Il faudra y revenir juste après. Derrière, t'as le match contre l'Ukraine où Jérémy Ménez, il fait un match de dingue, là, avec, il y avait quoi, de la pluie, de l'orage pendant une heure. Et derrière, t'as la défaite contre la Suède avec le but d'Ibrahimovic. Et tu joues contre l'Espagne, tu joues pas, et on te préfère Debuchy, Réveillère, etc. Et finalement, ça se termine comme un gâchis. Mais à ce moment-là, j'ai l'impression que t'as un peu les clés. En tout cas, Laurent Blanc te fait confiance. Et au final, ça se finit mal à cause de cette réaction, peut-être, c'est toi qui vas nous le dire, contre l'Angleterre. Et là, pour moi, c'est à ce moment-là. Bon, après, il y aura l'Ukraine, et avant l'Ukraine, t'avais retrouvé le match contre l'Australie où t'étais numéro 10, t'avais retrouvé un semblant en équipe de France de crédibilité, même de niveau. Mais c'est l'Euro 2012 où je pense que vous pouvez vraiment tout casser, et toi le premier.
Mais si on refait le film de l'Euro 2012, premier match contre l'Angleterre, on fait le match nul, mais je suis homme du match. 2012 contre l'Ukraine, on fait un bon match, une bonne prestation, on gagne. Commence contre la Suède. On perd le match contre la Suède, mais dans le groupe, c'est le feu. C'est le bordel. La journée du match de la Suède, c'est un bordel complet.
Pourquoi ?
Après le pour des trucs, mais vraiment.
Des embrouilles entre joueurs, ouais, tensions.
Des tensions, joueurs, les femmes qui arrivent, il y a des tensions entre les joueurs. On fait le match contre la Suède, on perd. Et à la fin du match, il y a des incidents dans le vestiaire. Pas physiques, mais des incidents par la parole, oui, et prise de position. À la fin du match, je demande à Laurent Blanc de faire une réunion avec tous les joueurs pour essayer de calmer la chose. Parce qu'on a un quart de finale qui arrive. Après, je pense que quart de finale ou pas, même si tout le monde avait été bien, tout ce que tu veux, on tombe contre l'Espagne. L'Espagne était injouable à ce moment-là.
C'est pour ça que le match contre la Suède était hyper important, parce que tu pouvais éviter l'Espagne en gagnant.
Oui, mais quand tu connais vraiment, si tu avais été dans le groupe, on ne pouvait pas le gagner le match contre la Suède, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde était à droite et à gauche et personne ne pensait au match parce qu'on était pratiquement, on était déjà qualifiés en gros. Donc franchement, c'est là que ça se passe. Et tu joues l'Espagne. Bon, l'Espagne, ils jouent à la baballe avec toi. Je suis pas là dans ce match-là parce que Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, ils pensent que le côté gauche de l'Espagne, c'est le côté fort. Donc ils décident de renforcer un petit peu ce truc. Mon entrée, elle est pas bonne. Parce que déjà, je suis déçu de ne pas débuter le match, c'est la vérité. Et 2013, on commence la saison en fait en équipe de France. Je suis déjà suspendu, 3 matchs. il y a le match contre le match amical contre le Japon et match de qualif contre l'Espagne. Et Didier Deschamps ne fait pas appel à moi parce qu'il veut pas qu'il y ait un engouement médiatique avec mon retour en sélection. C'est, je crois, c'est la première. C'est quand Paul prend le carton rouge ce match-là.
2-0 là. Première de Varane et de Pogba.
Ouais. Et donc il y a ce truc-là, je le prends mal. Et pendant un an, je viens plus en sélection. Il m'appelle pour la tournée en Amérique du Sud. Je refuse de la faire. Je dis que je suis blessé, alors que j'ai rien du tout. Mais je veux pas la faire. Et je reviens petit à petit en équipe de France. Mais à partir de ce moment-là, en fait, je viens parce que je suis sélectionné. Mais ma tête, elle est plus là. Parce que, en fait, comme je le dis dans le documentaire, tous mes faits et gestes sont épiés. On regarde tous les comportements. Oui, non, mais là, il est arrivé comme ça. Non, mais là, il avait son téléphone. Non,
oui,
mais
tu vas retarder 3 secondes, on te le fait payer.
Et ça me plaisait pas, en fait.
Bon, et Deschamps succède à Blanc. Là aussi, ça passe pas très bien. Ça passait mieux avec Laurent Blanc pour le coup. Mm-hmm. Titulaire sur le barrage aller contre l'Ukraine en 2013, 2-0. Tu joues pas le retour 3-0 qui envoie les Bleus au mondial. Mais toi, tu restes à la maison. Deschamps annonce sa liste, hein, journal de 20h de TF1. Ouais, il a fait un truc qu'il a plus jamais fait après. C'est Monsieur Langue de Bois. Mais d'un coup, là, la question de Gilles Boulot à l'époque, pourquoi c'est bien assez
pas... Monsieur, je coupe du bois, là.
Dans ce
groupe. Parce qu'il y avait un buzz immense autour de l'annonce de Samir, parce qu'il fait une saison incroyable
avec City. Ouais. Il dit, il est décevant en bleu, ses performances sont pas les mêmes qu'en club.
Ça, il avait pas tort.
Et il n'accepte pas d'être remplaçant.
Ça, est-ce que c'est vrai?
Bah, non, il vient de le dire.
Mais l'a accepté, non? D'une certaine manière, parce que quand t'es joueur, t'as toujours envie de jouer. Mais après, si t'es dans un groupe, tu pars pour une aventure pendant un mois, ok, pas de problème. À partir du moment où la concurrence, elle est loyale et que si à l'entraînement, je te montre que je mérite de jouer, fais-moi jouer, je l'accepte. J'ai déjà commencé, par exemple, avec des joueurs quand j'étais à City et la concurrence, elle était féroce.
Avec Navas, avec
c'est pas grave, on va te montrer à l'entraînement que je mérite de jouer. Non, mais... Et après, je jouais. C'est le quotidien de toutes les équipes.
Mais quand
après,
il dit ça, il te tue, là.
Oui,
en fait,
je
là.
Sais, mais après, quand t'es sélectionneur, pour moi, tu dois savoir gérer un groupe, tu dois faire les. Tu fais tes choix. Il a décidé que pour lui, peut-être, j'allais être un problème dans son groupe.
Et ça a été avéré finalement, parce qu'il y avait eu un buzz avec, on parlait de livres avec William Gallas, mais autour de ce qu'avait sorti Pierre Ménès, je crois que c'était dans le livre avec Daniel Riolo en plus, je crois, ou peut-être dans son livre perso, où il disait qu'il y avait 3 joueurs entre les 2 matchs contre l'Ukraine qui avaient été voir Didier Deschamps en disant faut le sortir,
Samir, ouais.
Faut le sortir, en gros, c'est un poison, quoi. 4
joueurs. T'avais les noms?
Non. Et 4 joueurs. Apparemment, et j'en avais parlé avec lui une fois, avec Pierre Ménès, et je lui dis pourquoi tu sors une info comme ça. Il me dit parce que je l'ai eu par 3 ou 4 différentes sources. Quand on est journaliste, il faut toujours vérifier avant de pouvoir sortir une source. Il m'a dit un jour j'ai eu Hugo Lloris sur le plateau du CFC et je lui avais parlé. Il m'a répondu d'une manière, en gros, où il m'a confirmé que c'était vrai en me disant ah t'es bien informé toi. Et je lui avais demandé. Et lui, il a fait quoi? Il m'a dit non. Hugo, il a dit que lui, il n'allait pas aller voir le coach pour lui dire ça parce qu'il s'entendait bien avec toi et que tu n'étais pas un problème dans le groupe. Et il m'a jamais dit c'était qui les joueurs parce qu'il m'a dit en plus, je ne sais pas c'est qui pour être honnête avec toi. Et voilà, après moi, j'ai eu. À partir de 2012, déjà, ma relation avec la presse, elle est cassée. J'ai quand même insulté un joueur, un journaliste. Donc. N'importe quoi que j'allais faire, ça allait être multiplié par 10, par 15. Donc voilà, j'ai décidé après, quand il y a eu la non-sélection pour la Coupe du Monde, j'aurais pu, avec mes saisons encore, espérer et continuer à vouloir jouer pour l'équipe de France. Mais comme j'ai su qu'il y avait des joueurs et compagnie, ouais. J'ai dit, je vais pas faire d'hypocrite et décider d'accepter de revenir à l'équipe.
T'as arrêté les Bleus à 26 ans.
Oui.
C'est ça, à 26 ans.
Juste pour revenir sur l'histoire du ferme ta gueule avec les journalistes de l'équipe, t'en parlais tout à l'heure, tu disais qu'en fait finalement c'était pas que des critiques sur l'équipe de France que tu pouvais accepter, parce que dans le documentaire c'est notamment relaté, où on parle uniquement de foot à ce moment-là, c'est plutôt ton choix Arsenal-Manchester City qui t'avait pesé et toute ta frustration sort à ce moment-là.
Ouais, il y a beaucoup de choses, le fait de m'avoir traité de mercenaire lorsqu'on a annoncé que j'étais le joueur français le mieux payé de l'histoire et compagnie quand j'avais signé à City. Il y a beaucoup de regards qui ont changé à ce moment-là. Et le fait de quitter Arsenal, qui pour beaucoup c'est une institution, c'est un top club, d'aller à Manchester City, c'était un choix qui était dicté par l'argent, alors que ça n'a pas été le cas. Si j'avais signé au PSG, j'aurais pris plus d'argent. J'avais l'Inter de Milan qui payait énormément aussi. Et pourtant, j'ai voulu rester en Angleterre parce que je me sentais bien dans le championnat.
Avec le recul, toi qui es maintenant dans les médias, est-ce que tu te dis.
Bon, si un joueur fait ça dans une compétition avec l'équipe de France, comment toi tu réagirais aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce qu'il faut composer avec les critiques aujourd'hui? Surtout qu'entre 2012 et là, 2026, il y a l'avènement des réseaux sociaux, tu le vois toi, aujourd'hui, quotidiennement, sur Mbappé, sur pas mal de joueurs. Est-ce que quand t'es un grand, grand joueur, tu dois faire fi de tout ça? Est-ce que tu dois te mettre dans une bulle? Est-ce que toi, à l'époque, t'étais fort, pas assez fort? Comment tu l'analyses avec le recul?
C'est dur. Parce que tu n'en es pas à la place des joueurs, de ce qu'ils vivent aussi dans leur sphère privée, parce que la sphère privée, ça, c'est une grosse partie aussi de toi, en fait. Tu peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans ta sphère privée en rentrant sur le terrain et dire j'oublie tout, c'est pas possible. Tu vois, moi, en 2012, et même dans ma sphère privée, j'étais pas au top. Ma mère a eu un arrêt cardiaque. Ma tête, c'était pas tout beau dans ma tête. Donc forcément, tu as des trucs, tu es là, tu rumines parce que tu es impuissant. Tu peux rien faire. Ça, c'est un problème médical. Je peux rien faire, mis à part essayer d'être là au maximum pour ma mère. Je peux rien faire d'autre. Et donc, quand il y a un truc ou deux, une personne qui vient, qui parle, qui vient, qui critique, qui parle sur tes choix, sur tes trucs, là, à un moment donné,
Il y a aussi comment tes proches reçoivent
ce truc-là.
Tu dis que ta maman, elle voulait que tu arrêtes l'équipe de France. Alors, déjà bien avant.
Ça, c'était en bleu. Tu as arrêté les Bleus à 26 ans. On disait ton image a été restaurée pour beaucoup de critiques depuis que tu es consultant à Canal. On va le dire aussi parce que certains ont découvert le passionné de foot que tu es. Tu bouffes combien de matchs par semaine?
Ah, j'en bouffe entre 15 et 20, hein, au moins.
Autant qu'Walid quasiment, en fait.
Ouais. Un peu plus, je crois.
Un peu plus même. Ouais. Tu regardes la Ligue 1 aussi, bien sûr.
Oui.
Tu regardes la Première Ligue?
Oui.
La Liga,
championnat espagnol, championnat italien,
tu regardes tout.
La Bundesliga.
Très casanier, le garçon.
Très casanier, posé à la maison dans les matchs.
Il a toujours été très casanier.
Non, c'est l'âge maintenant, c'est tous pour ça.
Comment tu fais les soirées avec des champions sur Canal? On avait Habib Bey il y a à peu près un an ici, qui s'est pris des marées, lui, parce que Marseillais, ta génération, ton époque en plus, lui, il commentait les matchs donc, du PSG en Ligue des Champions. Donc il a été très critiqué par certains. Est-ce que toi, tu prends des remarques ou pas de supporters parisiens quand tu es en soirée PSG avec des champions sur Canal?
Non, au contraire.
Ouais. Comment tu l'expliques ça? Comment tu l'expliques?
Tu leur portes chance.
dans le documentaire, quand City mène 2-0 au parc, t'es content quand même.
Oui, bien sûr, c'est mon club.
Oui, c'est ton club aussi.
Mais non, franchement, la dernière fois, on avait fait le match sur site, le PSG Arsenal. Je me retrouve à faire des photos au Parc des Princes avec des supporters du PSG. Et chose qui ne pouvait pas se passer quand j'étais joueur. Non, mais j'essaye d'être le plus honnête possible dans mes analyses. Ce n'est pas parce que je suis Marseillais que je dois critiquer le PSG ou quoi que ce soit. Si le PSG est bon, je vais dire que le PSG est bon. Et j'essaye d'être le plus juste possible. Et les téléspectateurs, ils ne sont pas dupes. Si quelqu'un dit les choses telles qu'il les ressent, on finit par t'apprécier.
Tu aurais préféré, en tant que joueur, être entraîné par De Zerbi ou Luis Enrique?
Waouh, ça, c'est dur. En fait, Luis Enrique, on va dire que j'ai été entraîné par le même que lui, un petit peu, par Pep. Donc, je vais dire De Zerbi. Je vais dire De Zerbi, même si... Je pense qu'on aurait pu se clasher, lui et moi, parce que il est un petit peu quand j'ai vu même un petit peu le documentaire sur YouTube de l'Olympique de Marseille, il me rappelle un petit peu Mancini dans sa façon d'être. C'est des entraîneurs italiens qui sont jeunes, ils sont encore un petit peu joueurs, donc ils sont durs, ils aiment bien titiller les joueurs. Luis Enrique, sur ce que je vois avec ses joueurs, j'ai l'impression quand même qu'il est là, qu'il est un petit peu papa. Je pense que ça aurait peut-être un peu matché un peu plus avec lui.
De Zerbi aussi, il est un peu papa.
Tu sens pas
De Zerbi? Il est juste un peu... Oui, mais tu sens plus de recul et de hauteur.
Tu penses à Sampaoli un peu moins, De Zerbi?
Oui, mais il réagit beaucoup sur le bord de la touche. Si t'es de son côté, tu fais un ou deux trucs mauvais, tu sais que...
D'où l'anecdote de Mancini sur la PlayStation.
Ah oui, c'est un peu la même chose.
Mehdi Benassiat, on a parlé tout à l'heure, c'est encore ton grand pote, évidemment. Lui, parfois, il dit bon, c'est génial mon expérience, mais c'est fou. C'est Marseille, c'est particulier. Tu es dans le documentaire. Il y a que Marseille, il y a que Naples aussi peut-être qui peut faire comme Marseille en termes d'environnement et de pression. Tu devrais toi bosser à Marseille, à l'OM un jour.
Mon rêve absolu, ce serait un jour d'être sur le banc de l'Olympique de Marseille, oui. Mais je sais
aussi que peut-être à ce moment-là, j'ai pas de problème au niveau des cheveux, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai peut-être une calvitie qui va commencer à arriver, parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille.
Ça donne quand même envie, quoi, malgré l'environnement, la pression énorme,
malgré
les coups malgré tu peux prendre aussi, malgré la semaine, ce qu'on vit encore. Quand tout va bien, ça va pas en fait. C'est ça qui est fou.
Non, c'est vrai, mais après c'est comme ça. C'est Marseille.
C'est Marseille, bébé.
C'est des excès, c'est comme ça. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est toujours comme ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où alors c'était Jacques-Henri Hérault qui disait qu'il faut enlever des supporters marseillais des bureaux, etc., pour qu'il y ait moins de passion. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vois ce qu'il voulait dire quand même. Là, bon, t'as un ancien Marseillais, t'as un Pablo Longoria qui est pas Marseillais, mais qui est complètement possédé le jour des matchs. T'as un entraîneur aussi, moi j'apprécie, mais qui est possédé aussi. Tu vois, on dit qu'il faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Pape Diouf, pour le coup, c'était quelqu'un qui était très calme. Tu vois, qui avait ce calme, cette prestance, sa voix.
Une sagesse aussi.
Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je te dis. C'est cette voix, ce ton posé, ce vocabulaire qui faisait qu'il prenait de la distance. Et c'est peut-être la plus belle période de Marseille que moi, en tout cas, j'ai vue, comme tu disais, avec cette équipe dont tu as fait partie. Des fois, on se demande quand même s'il ne faut pas des gars un peu plus calmes. Même si Mehdi Benassia, il semble calme, mais est-ce que c'est un faux calme? Possible.
Et Samir.
C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est, je pense que si tu n'as pas un entraîneur qui est volcanique et qui a le tempérament à Marseille, il ne sera pas accepté par les supporters. Si on regarde sur les dernières années, les entraîneurs qui ont eu du succès auprès du public, c'est Marcelo Bielsa, qui est complètement décalé, en décalé total. Et là, aujourd'hui, De Zerbi, on va dire...
Sampoli,
mais Sampoli, c'est pareil. Tudor aussi, c'est pareil. Ils ont eu Marcelino et ils l'ont dégagé directement alors qu'il est en train de réaliser un travail monstrueux à Villarreal. Mais c'est un mec qui est en fait trop calme, trop plat en fait pour l'environnement marseillais.
Sur ton rôle de consultant, tu kiffes ta vie aujourd'hui ?
Ouais, moi je kiffe. Je kiffe aussi parce que ça me permet de jongler entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Moi j'ai mon fils qui est installé qui est à Dubaï, ça me permet aussi de voyager, d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai pas commencé encore à passer mes diplômes, parce que je sais que si je deviens entraîneur, il y a plus de vie en fait privée ou personnelle. C'est le foot. Et moi, quand je me mets dans quelque chose, je suis quelqu'un d'entêté et je me mets à fond les ballons. Donc c'est pour ça que je prends le temps un petit peu.
Quand tu dis quand je me lance dans quelque chose, je vais à fond. Aujourd'hui, dans ton rôle de consultant, tu fais partie quand même des références. Tout le monde parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des consultants dans les médias ? Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, éditorialistes, consultants, avec les nouvelles chaînes, etc.
Tu veux dire quoi par là ? Est-ce qu'ils sont assez francs ?
Qu'est-ce que tu penses de la profession des consultants ? Parce que on parle beaucoup de bien.
Des consultants anciens joueurs ou de toute la profession ?
Non, consultants anciens joueurs. Ancien joueur.
Moi, je peux parler de tout.
Non, mais ancien joueur parce que.
En gros, est-ce qu'il faut avoir joué pour.
Tu d'accord. C'est ça la question que tu posais. Oui, est-ce qu'il faut avoir été un ancien joueur de haut niveau pour être un bon consultant.
Pour moi, non. Je préfère un passionné qui regarde 20 matchs par semaine plutôt qu'un ancien joueur qui regarde pas du tout le foot.
Un Walid, par exemple.
Ouais. Je préfère un Walid qu'un consultant qui surfe un petit peu sur sa carrière et qui regarde pas de foot, qui ne suit pas l'actualité, qui ne suit pas l'évolution du football. Le football d'il y a 20 ans, c'est plus le football d'aujourd'hui. Il faut suivre son époque. Et si j'ai un conseil à donner aux consultants, regardez des matchs surtout. Pour qu'au moins, quand vous parlez de certains sujets, ben vous maîtrisez un petit peu.
C'est quoi la différence entre le football d'il y a 20 ans, la plus grosse différence entre le football d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le football, il s'est uniformisé. Que tous les entraîneurs essayent de jouer de la manière de Pep Guardiola parce qu'ils ont vu que c'était la manière qui gagnait. Pour moi, ce que j'aimais d'il y a 20 ans, c'était un petit peu le choc des cultures de chaque entraîneur. Tu avais un Portugais, il a amené son côté tactique, par exemple. L'Espagnol, il a porté son côté technique. L'Anglais, ben, c'était un jeu plus direct. Quand on jouait, j'ai joué par exemple à Bolton, Sam Allardyce, c'était des longs ballons, mais tu savais que tu allais souffrir. Tu n'étais pas sûr de gagner en posant le jeu et en jouant. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je trouve aussi beaucoup plus de créativité et d'instinct chez les joueurs offensifs. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes, elles essayent d'avoir 5 joueurs
joueurs offensifs pour créer un décalage avec les cadres. Il y a beaucoup de possession autour de la surface. Je trouve qu'il y a un peu moins d'engagement de la part des joueurs et tous les joueurs se ressemblent un peu dans la même position. C'est tous les mêmes. Je trouve que c'est ça la différence. Et je trouve qu'avant aussi, il y a 20 ans, même pas moi, ma génération, mais même un petit peu avant, il y avait beaucoup plus de grands joueurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un joueur un petit peu technique et grand joueur, de suite, il sort du lot et on en fait. À l'époque, tu regardes le Ballon d'Or des années 90 à 2000, chaque année, c'est un nouveau. Il n'y en a pas un qui a fait un doublé, un triplé ou quoi que ce soit.
Samir Nasri est avec nous dans Génération After, on se régale. Merci d'être avec nous. Tu restes encore quelques minutes.
Ah, c'est bon, là, c'est pied-droit, pied-gauche.
Dans Génération After.
Il peut rester 2h30.
Il y a eu un gros débat tout à l'heure sur le chat. Attendez, les gars, on a souvent dit que c'était Ben Arfa le plus grand génie de technique en France. Mais Samir Nasri était-il pas supérieur à Ben Arfa? T'en penses quoi, toi?
C'est différent.
Différent.
Totalement différent.
Technique différente.
Moi, plus dans la passe, Atem plus dans l'élimination un contre un.
Ah oui, parce qu'en fait, et c'est ça le vrai problème dans le football, et tu parles des différentes générations, et c'est ce que j'appelle, moi, le comment dire, pour pas être trop dur, mais je vais pas dire le scandale, mais le gros problème avec les highlights, notamment sur, tu sais, maintenant, il y a les fameuses vidéos.
Les compiles.
2 minutes 30 de Ryan Cherki.
Ça l'énerve, ça.
2 minutes 30 Noah Lang. De Noah Lang. Ah ouais, Noah Lang. Hein.
Non, partons pas sur Noah Lang.
Non, ça va être insupportable. Pourtant, c'est un néerlandais. 2 minutes 30. Le gars, il te fait, ou alors la dernière vidéo d'Mbappé, la sortie par le Real ou par la Liga. Le mec, il fait double passement de jambe, il perd la balle. Ouah, Kylian Mbappé.
Ça prend d'éducation aussi parce que les gamins aujourd'hui,
ça me rend dingue.
Beaucoup de gamins s'émerveillent devant ça. Non, mais ils s'en foutent que le ballon soit perdu.
Pourquoi l'Espagne Attends, on a encore 30 secondes. Pourquoi l'Espagne
Ça fait 5 ans que t'es là, tu vois pas le finish là-haut.
58 ans qu'il a et qu'on
pas. Pourquoi l'Espagne elle est la population footballistique la plus technique? C'est pas des dribbleurs, c'est qu'ils vont te faire. C'est ce que Guardiola, le Barça, l'Ajax, ils vont te faire le là, tu vois, entre toi et Walid, sur le pied droit, parce que le but est là-bas. Ça, c'est une passe très technique dans la course, dans le bon tempo, dans le bon timing. Est-ce que le terrain il est mouillé? Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce qu'il est sec? Est-ce que je dois appuyer? Mais c'est pas deux passements de jambes et la touche d'après, la passe, elle est en touche. C'est ça que je comprends. Donc, Atem Ben Arfa, excellent dribbleur, peut-être même bon passeur. Et puis après, Benzema, très bon finisseur. Menez, dribbleur. Nasri, plutôt passeur. Fabregas, uniquement passeur, il va à 2 à l'heure, mais peut-être meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est chaque joueur a ses caractéristiques.
On a gratté encore 10 minutes avec toi, Samir. On a négocié. Reste avec nous, Samir Nasri, Kevin Diaz, Médé Gerchour, dans un instant. Tiens, il y a des appels au 32-16.
Il est lancé, Kevin.
On va vous donner la parole. On va parler de la liste de Deschamps aussi rapidement avec toi. Reste avec nous, Génération After RMC, 21h27.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin. Kevin Diaz est là ce soir sur RMC. Walid Acharchour est là aussi. Samir Nasri aussi est avec nous jusqu'à 22h.
On peut pas passer ce qu'il y a à la pub? À la pub?
Non, c'est pas ça. C'est le off, garçon.
Non, il y a des émissions, tu sais, qui passent aussi.
Ouais, mais le off, c'est le off.
Le off, c'est le off.
On aura la pub, reste à la pub pour la Kings League. Dommage, j'en aurai même pas le temps.
C'est pas prioritaire du tout, en fait. Il y a plein de choses encore.
Nicolas,
et notamment.
Il y a même pas, c'était pas dans Génération.
Ah, t'as raison, on aurait pu le faire. On va trouver un truc.
Je reviendrai pour ça, s'il vous plaît.
Tu reviendras avec plaisir. Tiens, un petit plaisir, Walid Acharchour, hein, les plus belles perles de Walid, c'est parti, medley.
C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait que il cause la cage.
C'est un petit peu cette base-là pour en fructifier les fruits.
Maintenant, si on doit être en vol d'oiseau sur l'analyse et prendre un peu plus de recul, il y a quand même une situation comptable où j'ai l'impression et Fonseca, c'est pas un pimpon.
Bon, sinon
il y a Astérix, Obélix, Vercingétorix, Milou,
Vercingétorix.
C'est simple comme l'eau de roche, hein. C'est clair comme l'eau de roche, hein.
Vous voyez pas Samir, il est plié en deux, évidemment, c'est un régal. Nous, on kiffe, hein.
Franchement, c'est sûr et certain.
C'est extraordinaire. Mais t'en fais moins dans la vie, c'est bizarre, en fait. Quand tu réserves ça le soir,
dans la vie, t'en fais pas.
En direct.
C'est la pression, c'est la passion.
Bon, je vais accueillir, il y a des appels au 32-16. Il y a Arshad qui est avec nous, supporter de l'OM. Salut, Arshad. Tu es là. Bonsoir, bienvenue dans Génération After.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Walid. Bonsoir,
Kevin.
Samir.
Bonsoir.
Samir, Kevin.
Salut.
Déjà, merci Samir pour tout. Moi, je suis celui avec qui, en fait, je suis un peu, je sais pas par où commencer. En vrai, Samir, c'était celui qui nous a fait kiffer le foot, simplement.
T'as quel âge, Arshad?
J'ai 26 ans.
D'accord.
J'ai 26 ans aujourd'hui. Donc, sur le passage à Marseille, j'ai 6-7 ans. C'est le premier footballeur que je suis. Et tout à l'heure, on a évoqué Sochaux, la finale à Sochaux. moi, le titre de champion de 2010, je l'échange 1000 fois contre le tir au but de Zubar. Mille fois. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir, parce que on a aussi évoqué Bessa tout à l'heure. C'est surtout les émotions qui comptent, et les émotions que t'as pu faire ressentir à toute cette génération, à tous les Marseillais sur ton passage, ils sont bien plus forts que certains. Peu mettre beaucoup de choses devant toi. Donc sur ça, je pense qu'il y a aucun regret à avoir. Je suis personne pour te le dire, mais en tout cas, ça me tenait à cœur de le dire. Il y a aucun regret à avoir, et sur toute la dignité que t'as pu avoir envers le club, l'institution, à la suite de ta carrière, c'est qu'une fierté pour nous, et vraiment merci.
Ben merci beaucoup. Après, je suis désolé de te dire ça. C'est vrai, les émotions, mais un titre, ça reste, tu vois. Ça reste gravé dans le marbre. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment, vraiment, vraiment aimé faire avec mon club. C'est même si j'ai été formé à Marseille, j'ai grandi dans cette ville-là. Marseille, c'est tout pour moi. C'est ma passion, c'est tout. Et j'aurais vraiment aimé avoir soulevé un trophée au moins.
Ouais, mais comme t'as dit, c'est pas fini, et je pense que l'histoire nous fera boucler la boucle avec un titre en tant que dirigeant, entraîneur. Ah. On sait qu'il y aura quelque chose, ça on est tous persuadés. Et j'aurais juste une petite question ou une petite intervention, et
vas-y.
Vraiment et Walid aussi, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Je pense qu'au-delà que nous, supporters Marseille, on dise merci, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs de cette génération qui doivent te dire merci, que ce soit Kylian Mbappé, même des Antoine Griezmann ou n'importe qui, parce qu'en fait vous avez payé le prix. Vous avez pris pour la future génération. Et
c'est
ça,
très intéressant ce que tu dis.
Les gens ne mesurent pas.
Et tu verras dans le docu, mais il y a, moi pour moi, la meilleure.
Jérémy a fait une très bonne intervention.
Pour moi, la meilleure intervention, c'est celle de Jérémy Ménez à la fin, où il explique, il disait que pour nous, à l'époque, on pensait pas être des exemples, qu'on voulait juste jouer entre copains, et que peut-être on n'a pas assimilé tout le foot business. Il parle aussi des codes, notamment, sur le rap, sur les casques, etc., sur le je parle pas d'âge. Et qu'en fait, au final, c'était peut-être une génération sacrifiée qui a permis à ceux, 10 ans après, de les faire passer.
C'est comme une forme de génération témoin, en fait.
Ouais.
Ceux qui, en tout cas, parce que après, il n'y a pas eu que des gars qui ont réussi après vous, mais c'est vrai que voilà, la génération 87, elle a servi de témoin, parce qu'il y a ceux qui ont grandement réussi, il y a ceux qui ont moins bien réussi, parce qu'il n'y a pas que vous, après, il y a les moins connus aussi, et les générations qui sont venues juste après. Mais c'est vrai qu'un gars comme Mbappé, comme Griezmann, mais aussi avec leurs entourages, ils se sont très très vite staffés, ils ont compris pas mal de choses que vous avez peut-être mis du temps à comprendre.
C'est clair. On n'est pas préparé à ça. Jérémy le dit bien. Quand tu fais ça et tu le sais, quand t'as évolué dans le monde professionnel, pour toi, tu peux pas être un exemple. Tu te rends pas compte, en fait, que tout ce que tu fais va être épié et que des jeunes vont te prendre et t'idolâtrer. Même si toi, tu as été dans cette position-là moi, je regardais Maradona, mais je me suis jamais dit dans ma tête, mais je suis un exemple pour des milliers de gens. Non, pour moi, c'est, je vais jouer avec mes potes et je fais mon match, en fait. Et on se rend pas compte que toutes nos actions ont des répercussions sur les gens.
Merci, Arshad, pour ton témoignage.
Si je peux juste me permettre. Et en fait, moi, je pense que justement, cette génération sacrifiée a fait évoluer la société. Et Samir, je te le dis, et ça a été ton ami à un moment donné, quand Benzema a dit que son ballon d'or n'est pas politique, il est politique, et votre carrière et vos sacrifices, ils sont politiques. Et ça, il faut le dire aussi. Et pour nous, c'est une fierté d'avoir des gens comme toi à la télé, comme Walid, comme Elton. Et je pense que c'est important de le dire. Merci à vous de représenter. Levez toujours la tête, Walid. On est fiers de vous écouter, et c'est très important pour tout le monde. Et voilà.
Merci Arshad d'être venu sur RMC.
Merci.
Très bonne soirée, à très vite. Tu reviens quand tu veux, évidemment. Demain soir, tirage au sort Ligue des Champions. Passe de ligue, les gars. Marseille, Monaco, Paris. Enfin, Marseille un petit peu quand même.
Il est excitant, ce tirage au sort.
Il est excitant. Il y a 4 chapeaux, mais les chapeaux ne veulent plus rien dire, en fait.
Oui, c'est vrai.
Tu affrontes deux équipes de chaque chapeau, donc ça ne veut plus rien dire. Marseille sera a priori chapeau 3. Est-ce que tu penses cet effectif-là, à 5 jours de la fin du mercato, là tu as notamment Ceballos, on peut en parler, qui va pas venir, on va en parler dans un instant. Cet effectif-là, tel qu'il est configuré aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nourrir comme ambition en Ligue des Champions?
Dans les 24.
24. Après, on verra, c'est du
après,
bonus.
Après, on verra en fonction du tirage au sort. Mais pour moi, cet effectif-là, avec les efforts consentis sur certains postes, et je pense aussi que le mercato marseillais n'est pas terminé, je pense qu'il va falloir doubler certains postes où, pour moi, il y a encore certaines lacunes et pas assez de couverture, notamment sur le poste de latéral gauche. Pour moi, il en faut un. Il me faut j'aimerais bien un milieu de terrain aussi côté marseillais pour densifier un petit peu ce milieu.
Créatif ou destructeur?
Pour moi, destructeur un petit peu et aussi un créatif. Pour moi, il en manque. Pour essayer d'aller un peu plus loin, d'avoir autant d'ambition et aussi réussir une saison en Ligue 1, pour moi,
En
termes numériques.
Avec ou sans Rabiot?
Pour moi, il est.
Je le compte pas
parce que compte tenu des déclarations des uns et des autres, pour moi je vois pas l'OM le réintégrer sans que Rabiot fasse des excuses et des avoues en gros sa
conseillère et sa mère.
Il a jamais fait, il a 30 ans, je pense pas qu'il va le faire aujourd'hui. Donc pour moi, si l'institution marseillaise se veut aussi forte, comme elle l'a dit d'ailleurs au départ, de les mettre à pied parce que l'institution passait au-dessus, pour moi, je fais sans Rabiot en fait.
Mais sur en tout cas les pistes, là on parlait de Palmieri qui pourrait être latéral gauche, Ordonez, ils veulent le faire, donc en défense centrale. Tu dis un milieu de terrain un peu destructeur, on parlait un peu de Florentino Luis hier,
très bon dans
ce style. Mm-hmm. Est-ce que Ahmed Traoré, qui là va sûrement arriver et qui peut jouer à gauche en remplaçant Paixão et en numéro 10, tu le comptes lui dans le créatif?
Oui. Oui, je le compte dans le créatif parce qu'il faut voir aussi comment Paixão va s'intégrer au championnat de France, parce que s'il est à l'image de ce qu'il faisait à Feyenoord, et il va tout casser, c'est très bon joueur. Après, faudra voir. Je pense que devant il y a ce qu'il faut entre Guiri et Aubameyang qui va apporter son expérience et qui est là pour mettre des buts. S'il est servi dans la surface, il va les mettre, ses buts. Greenwood, moi je le trouve très bien depuis la pré-saison et même son début de saison, je le trouve assez bon. Moi, c'est au milieu de terrain et c'est surtout comment Marseille arrive à jouer face à des blocs bas. Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la clé? Parce que c'est ce qui leur a fait défaut la saison dernière sur des matchs à domicile contre des équipes qui arrivaient regroupées et qui les prenaient en compte. Je trouvais cette équipe marseillaise très naïve à la perte de balles. Et aujourd'hui, quand je regarde la composition du milieu avec Angel Gomez et Højbjerg, je trouve qu'il manque quelqu'un de destructeur un petit peu au milieu qui peut leur apporter cet équilibre, qui puisse attaquer en nombre et d'avoir quelqu'un qui est toujours là devant la défense pour justement contrôler tout ce qui est contre-attaque.
Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'équipes qui ont des problèmes face à des blocs bas.
Oui.
Même le PSG.
Ouais, mais à la perte. C'est-à-dire que
mais à la perte, il faut être agressif.
Bien sûr, dans la gestion de profondeur. Parce que Samir, il parlait des matchs de domicile.
Parce que
même à l'extérieur, l'an dernier,
Tu peux la contrer de deux façons. Soit tu recules, soit tu continues d'avancer. Mais pour continuer d'avancer, faut pas que t'aies des mecs qui s'alignent comme des U14 à la dernière minute d'un match contre Rennes. Tu vois de qui je veux parler. Alors que c'est le capitaine de l'équipe. Donc, ça vient, le premier pressing, les attaquants. Le milieu qui est censé pousser. Et c'est vrai que moi, je te l'ai dit, Florentino Luis, j'avais pas entendu parler de ça, mais hier, franchement, c'est un vrai numéro 6, pas un grand joueur, mais vrai numéro 6.
Dans ce style-là, je sais pas s'il va arriver ou non.
Il peut aller gratter, mais un profil comme ça, c'est intéressant. Mais après, ça vient aussi de la défense derrière. Ouli, il fait le boulot pour le coup de défendre très loin de sa ligne, de couvrir les 40 mètres dans le dos. Mais l'OM, comment ils se sont fait contrer contre Traoré et contre Auxerre l'année dernière? C'est sur des transitions de 40 mètres.
Et même là-bas, Auxerre en grande difficulté. Contre Reims, la même chose. Et c'est pour ça que s'ils font un mec comme Ordonez qui peut gérer la profondeur, qui peut prendre latéral droit.
Ça, c'est primordial.
Qui joue pas ce soir avec le club
Ils jouent pas, j'espère qu'à un moment donné, ça va se concrétiser.
Ils vont mettre 3-0 contre les Rangers.
Ils vont se qualifier.
Tu vois, si t'as Ordonez, moi je donne un exemple, parce que je pense dans ma tête que ça va se faire comme ça, mais j'ai beau m'imaginer, mais pour moi, Marseille va s'articuler de cette manière-là. Sur les gros matchs de Ligue des Champions, en fonction de d'où le danger va venir, tu vas mettre soit Ordonez latéral droit, soit Medina côté gauche pour pouvoir fermer le joueur fort de l'équipe, et tu mets Ouéa de l'autre côté qui vient s'intercaler parce que Deserbi il va toujours vouloir ressortir avec trois défenseurs pour avoir un surnombre au milieu de terrain. Donc en fonction de ça, si tu arrives à faire Ordonez, tu peux sur certains matchs tu vas mettre Medina à gauche. Si tu joues Arsenal, tu mets Medina à gauche pour qu'il ferme Saka, à droite t'as Ouéa qui pourra prendre le couloir. Donc
et à l'inverse avec Palmieri.
Exactement.
Samir Nasri est avec nous, tu restes encore avec nous, tu viens nous voir sur RMC pour ton documentaire dimanche soir, 21h, Samir Nasri, rebelle sur Canal+.
Il aurait été bien dans Génération After quand même.
Moi j'en voulais pas.
Ouais.
Moi j'ai dit non. Si Samir vient, je viens pas.
J'ai essayé un peu.
Non, j'imagine bien. Ça aurait été un kiff monstrueux.
Le meilleur joueur de foot de Génération After. Franchement, faut pas.
Mais ça viendra.
J'ai essayé.
On peut dire des choses comme
ouais,
ça.
Ouais, j'ai essayé. Bah non. Ouais,
je sais bien que t'as essayé, garçon. J'étais d'une jeune informée minute par minute.
J'ai à dire que je plaisante, hein, pour ceux qui. Non, on sait jamais.
J'ai essayé de tirer mon épingle du jeu, mais ça n'a pas suffi.
Bon, dans un instant, on va faire un petit quiz. Qui suis-je pour savoir qui sont les vrais suiveurs du foot. On a un petit quiz préparé par Najib en régie. Ça fait marrer, ça. Reste avec nous. La suite de Génération After. Un mot sur la liste aussi à venir. RMC, 21h45.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Oeda Charchour, avec Kevin Diaz. Du coup, il reste encore un peu avec nous, Samir. Samir Nasri, sur RMC, à l'occasion de la sortie du documentaire Samir Nasri, rebelle, dimanche soir, sur Canal+, réalisé par Marc Sauvourel. Il y aura un petit match également. Je vous dis quand même dimanche soir, 20h45. Oui. Il faudra faire un choix.
On se le fera en replay.
Lyon-Marseille.
Le en replay.
Le match?
Non, le doc. Ok. Après, moi, je l'ai déjà vu deux fois, donc ça va aller.
La liste des champs pour les matchs qualifs pour le mondial. Ukraine et Islande, 5 et 9 septembre. Alors, sont absents de la liste, Kolo Muani, Zaïre Emery, Bouba Kamara, que t'aimerais revoir en équipe de France.
Il s'est un peu blessé, là, sur le dernier match contre Brentford.
Jonathan Clauss. Ouais, Benjamin Pavard.
Il a pris Pavard, j'avais pas vu.
Non, il est pas. Les absents.
Ah, d'accord.
J'ai commencé en disant les absents.
Ok. Excuse-moi, Nico.
Bon, Areola n'est pas là non plus. Les frères Hernandez sont là. Rabiot est bien là. Deschamps a expliqué que voilà, il savait comment qu'il n'avait jamais eu de problème avec Adrien Rabiot en équipe de France.
Oui, avec Adrien. Oui.
Ouais,
il y a une n'a pas voulu être réserviste aussi, ce garçon, mais bon.
On a
pas,
pas de problème,
tout va bien.
À la carte.
Ouais, à la carte. Ouais. Ekitike n'est pas là, il dit registre essentiellement axial.
Ah oui, ça aussi.
Ouais. On savait, ouais, ouais. D'accord, et c'est un problème apparemment. Ouais. Il dit aussi, on le suivait déjà à Francfort.
Ça, ouais. Ouais.
Ça me fait marrer à chaque fois, il dit ça. Enfin, genre, il sait.
À Reims aussi, il le suivait.
Oui, c'est ça, t'as raison. Il dit, je ne vais pas accumuler les joueurs du classique.
Ouais.
On a pour 9 mois encore.
Ouais.
Mais il a le potentiel pour l'équipe de France. Voilà. J'ai livré cette déclaration qui n'apporte pas grand-chose.
J'espère qu'il a le potentiel pour l'équipe de France.
Il va peut-être faire demi-finale et gagner la première.
Dommage, Ekitike, pas dans la liste. Samir, il est prêt pour toi?
Oui, pour moi, il est prêt. Je ne comprends pas son absence. Comme. En fait, le sélectionneur, je le trouve à contre-temps. Par exemple, Akliouche, j'aurais plus vu la saison dernière et pas de suite sur ce rassemblement-là. Sur ce rassemblement-là, j'aurais plus donné l'opportunité à Ekitike de pouvoir montrer justement qu'il a franchi un palier. Il faut aussi dire qu'il a fait 3 matchs depuis le début de saison. Il a marqué à chaque fois. Et en plus, il est intéressant dans son registre. Il est grand, il est technique, il est rapide, balle au pied. Moi, j'aurais bien aimé voir Ekitike.
En plus, avec Kolo Muani qui sort de la liste. Normalement, c'est le choix, c'est Ekitike, en fait.
Le problème, c'est que Didier Deschamps, s'il prend Ekitike, qu'est-ce qu'il fait s'il met 2 buts?
Oh, il rappelle plus Kolo Muani. Il lui pose des problèmes.
Bah oui, je t'ai entendu aussi en parler. Mais il est comme ça, Didier Deschamps. Il va pas se rajouter des nœuds au cerveau. C'est-à-dire qu'il va être là, il va se dire bon. Là, si je prends Ekitike, déjà ils vont me dire ah oui, mais il a pas joué ou il a pas... donc il faudra le reprendre jusqu'à ce que je le fasse jouer. Et puis après, là, Kolo Muani, il faut quand même que je lui garde une fenêtre. Ekitike, il joue 9. Mais Mbappé, il faut le mettre 9 parce qu'il défend pas. Dembélé, il peut jouer 9 aussi. Mais bien sûr, il le sait très bien. Il le sait. Mais il prend Akliouche. Personne va lui parler d'Akliouche.
Oui, mais le problème,
il va lui laisser ses 3 minutes. Oui. 3 et 4 minutes.
Le problème, c'est voilà, que Ekitike, le problème, en fait,
il va
le
bloquer.
Le problème, tu le repousses.
Tu ne le repousses pas, il est capable
parce
de pas
s'il a 15 buts en mars,
s'il est capable de ne pas le prendre jusqu'au futur.
Je ne pense pas que Deschamps fasse ses listes en fonction de Génération After.
Non, je ne parle pas de vous. Mais je te parle de plus les médias vont lui demander un gars, mais il est capable de ne pas le prendre.
Moi, pourquoi je voulais voir Ekitike? Parce que je pense que son profil est archi complémentaire de celui de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé peut partir du côté gauche. Par exemple, sur le but de Gakpo, la passe, elle est bien dosée, elle est mise dans le bon tempo quand il marque son but. Et je pense que son association avec Olise ou avec Dembélé ou avec Mbappé, je pense que ça aurait fonctionné.
Mais il le connaît pas.
Samir, Kevin. Ryan Cherki dans la liste aussi, il commence à s'installer en équipe de France. Comment tu vois son évolution? Il franchit un palier à City avec Pep Guardiola. Il a fait une première titularisation ce week-end, pas forcément convaincante, pas horrible mais pas convaincante.
Un peu dans le dur.
Comment tu vois son potentiel surtout?
Non, le potentiel pour moi n'a pas de limite à partir du moment où il arrive à assimiler la méthode Guardiola. Parce que Pep Guardiola va le faire énormément progresser d'un point de vue tactique et même au niveau de l'effort. Parce que les équipes de Pep Guardiola, c'est du pressing, c'est énormément d'intensité. Et je pense qu'il a les qualités pour pouvoir le faire. Maintenant, à voir. Parce que moi, j'ai toujours eu le seul petit problème que j'ai avec Ryan Cherki, c'est son irrégularité. J'ai jamais remis en doute son talent. Je pense qu'il a un talent, il a un talent spécial. Il est vraiment bidextre. Il a une très bonne technique. Il sent le jeu. Il est beau à voir jouer. Mais je demande de voir comment il va réussir à faire évoluer son jeu, parce qu'il lui manque ce petit truc-là pour moi pour être au très 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 haut niveau.
Bon, voilà pour l'équipe de France, c'est une autre question aussi.
Il y a aussi un problème au poste de milieu de terrain. Il met Désiré Doué milieu de terrain, d'accord ?
Il met Kliouche attaquant.
Et toujours pas de Tolisso.
Tolisso, il a
donc,
dit.
Non mais donc Tolisso.
Il a dit bien sûr que je le suis.
Ouais, enfin heureusement qu'il le suit. Mais moi je ne comprends pas ce qu'il nous
dit,
fait.
J'ai vu jouer au Bayern.
Enfin, je comprends pas le traitement
qu'il le connaît depuis sa première période à Lyon.
Non mais pour le coup je comprends pas le traitement de Tolisso parce qu'il sort Guendouzi, il sort Warren Zaïre-Emery. Tolisso quand même il enchaîne après une très très bonne saison l'an dernier, un très bon début de saison. Tolisso il connaît l'équipe de France, il a quand même gagné la Coupe du Monde en 2018, il était dans le groupe en 2021. Normalement,
c'est pas l'avenir pour
lui. Non mais t'as le crédit pour revenir. C'est-à-dire que c'est un 93 hein, Tolisso, c'est pas Giroud, il a pas 38 ans. Et là, il le prend pas non plus. Donc Tolisso,
tu peux faire à la place de qui?
Demain par exemple, Désiré Doué, tu le fais monter à la place d'Akliouche sur les offensifs et tu mets Tolisso un vrai milieu de terrain parce que Doué, il l'utilisera pas dans le trio du milieu de terrain ou en tout cas en double pivot.
Bon. Donc, quelques secondes pour ce petit quiz, les amis, pour voir qui est un crack là.
Je viens de prendre une soufflante là, il y a une heure et demie.
Qui suis-je? Écoutez bien, je cite des clubs.
Il m'a fait trois joueurs,
année de naissance, on y va, vous êtes prêts?
Allez.
C'est pas hyper facile. Hein.
Ouais.
Bon, on commence par le plus facile. Né en 1983, club, j'ai dans le désordre. Newcastle, Lyon.
Roma.
Non, 83, Walid.
Ouais. Roma, AG Auxerre, AC Milan.
Mexès.
Merci, Kevin.
Ah ouais.
Bravo. C'est fort. Bravo.
Newcastle?
Mexès, Newcastle?
Il a jamais joué à Newcastle, Philippe.
Ouais, erreur.
Ouais, erreur. Excuse-moi.
Erreur.
Et grosse erreur.
On oublie ton point. Terminé.
Ouais, ouais.
Bah non.
Merci.
Ils auraient trouvé sur Newcastle. J'étais sur bon son, moi. J'étais sur bon son. Lyon, Newcastle.
Alors, né en 1980, les gars. Les clubs, Deportivo La Corogne. Newcastle.
C'est un français ou pas?
Non. Okay. Celta Vigo, Levante, AEK Athènes. Pas simple.
Qu'est-ce, il a quel âge?
80.
Aujourd'hui, il a 45 ans. Quoi.
Ses clubs, c'est quoi, pardon?
Deportivo La Corogne, Celta Vigo, Levante, Newcastle, AEK Athènes.
C'est dans cet ordre?
Non.
Alors, l'ordre, c'est La Corogne, Newcastle, Celta, Levante, AEK Athènes.
Pandiani?
Dur.
Fran?
Pas loin.
Makai? Non, pas Makai, ah, Bayern. Non.
Initial, DT.
DT?
Diego Tristan.
Merci,
Diego
Tristan, Samir. Exactement.
Il fait une passe D sur Fran.
Facile. Né en 1976. Club Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough.
D'accord.
Viduka.
Marseille.
D'accord, non?
Parme, Inter Milan, Leeds, Middlesbrough, Marseille. C'est pas dans l'ordre.
Parme, Inter Milan, Middlesbrough.
Les gars, oh.
Que de rue?
Légende.
Non?
Légende à Marseille.
Légende à Marseille?
76.
Il a quel âge?
Parme.
Il a 46.
Il est au club actuellement.
Mais non.
Qui est au club? Il est au club, il est à Marseille.
Fabrizio
Ravanelli.
Exactement. Voilà. Un peu déçu.
Celui-là, je l'avais pas. Hein.
Ouais, moi non plus.
Alors, mais on n'a pas dit la Juve. Vous oubliez des clubs.
La Juve n'a pas été dite. Il est pété le quiz de Najib.
Najib, là, il nous a déçu.
Il nous oublie la Juve.
En fait, il nous met des embûches. Il enlève des trucs.
Il me dit qu'il y a terminé pour le quiz. Tu m'envoies une boost. C'est pas grave.
On aurait raconté.
C'est ça, Génération After.
C'est ça, on est imparfait. On sait qu'on est imparfait.
C'est du direct.
C'est
du direct.
C'est comme ça.
Mais on aurait raconté l'histoire de William Arnaud.
On assume. On assume nos défauts.
On va faire une pause. William Arouz, rapidement, en 30 secondes.
Raconte-la.
Ton joueur, sa mort,
Luis Écoute, Thanos. Un jour, j'ai mon fils qui m'envoie un truc sur Twitch. Je vois que mon joueur, il est à la Kings League. Je vois qu'il est sélectionné par une équipe.
Il t'a pas prévenu.
Le lendemain, je dois jouer au padel avec Waleda Cherchour. Je vois qu'il est sélectionné par quelle équipe? Jérémy Ménez, Samir Nasri. Les potes de Walid. Je dis, mais non, je vois les problèmes, tu vois, comme dit David. Le lendemain, je vois débarquer qui au padel? Samir Nasri.
Discussion pendant 3 heures.
Il s'est mis au bord du cours.
Je crois. À chaque intervalle, il me disait, mais on peut pas s'arranger.
Discussion pendant 3 heures.
Et lui, il est fort parce qu'il a pas lâché. Il fait, non, mec, c'est Samir Nasri. C'est mon joueur. Exactement. Il va pas jouer à la Kings League.
Il avait dit, joue, on le vire.
Il avait dit, il ira en Ligue 2. Ouais. Et aujourd'hui, il joue au Mans en Ligue 2.
Voilà.
Bravo.
Et il a marqué.
Samir, merci, on s'est régalé. Dimanche soir, 21h. Samir Nasri, Rebelle sur Canal+. Tu reviens quand tu veux, tu le sais bien. Merci Kevin, merci Walid. L'heure arrive avec Gilbert, bien sûr, Daniel, Flo.
Bonne saison, Samir. Tour.
Bonne saison à toi.
Merci
notamment à ton consultant et un jour sur un
loin de nous.
Malheureusement. À bientôt.